après-midi, on va parler steampunk. Je tiens à dire tout simplement qu'il y avait Étienne Barillet qui n'est pas là, mais on a laissé sa chaise vide, son esprit est un peu avec nous. Enfin bon, bah, il a une gastro-entérite et une bronchite. Alors, du côté sanitaire, rien que pour Lyon, on a décidé de laisser chez lui. C'est quand même.
Ah non,
j'aurais
dû
crier. Ah ouais, non, mais. Ouais, non.
Alors le steampunk, c'est. Désolé.
C'est ça, voilà.
Non, mais en fait, le steampunk. Désolé.
Donc, on a eu une épidémie. Néanmoins, on a gardé la conférence, puisqu'on a des représentants de. Alors, on va préciser les statuts. Est-ce que les deux sont des associations?
Du tout. Machina Vapora est une association.
Alors, Machina Vapora et des représentants du forum de steampunk.fr.
Voilà.
J'ai pas dit de bêtises.
C'est ça.
Peut-être on va faire un petit tour de table pour d'abord vous présenter, puis quels sont un petit peu vos rôles. Et puis après, on parlera steampunk et organisation.
Entrez.
D'accord.
Viens.
Alors, peut-être Machina Vapora.
Association Lyon 1901, donc, dont je suis cofondateur et secrétaire, qui a été créée il y a 2 ans, qui est une plateforme de diffusion d'artistes, exclusivement d'artistes, qui fait donc de l'événementiel, beaucoup d'expositions, pas mal d'autres choses à venir, sur le thème large du steampunk.
Le thème large.
Le thème au plus large, c'est-à-dire on fait de l'artistique, et il se trouve que dans la mesure du possible, on le rattache au steampunk.
D'accord.
À l'inverse de beaucoup d'autres associations qui font du steampunk et qui, si elles le peuvent, rajoutent de l'artistique.
D'accord. Vous c'est d'abord de l'artistique.
Nous, on est une association d'événementiel artistique qui se trouve évoluer dans un registre steampunk.
Alors, quand tu dis événementiel, ça veut dire des expos, ça veut dire.
Soirée à thème, exposition. Ouais. C'est nos deux gros pôles.
D'accord. Et une soirée à thème, c'est quoi concrètement? Vous allez chez des gens costumés? Comment ça se passe? Nullement, non?
Nullement. D'ailleurs, beaucoup de gens s'étonnent souvent de voir les membres de l'association en jean t-shirt.
Ouais.
Non, on ne se costume pas si ce n'est quand vraiment c'est nécessaire. Notre rôle, c'est de trouver et d'organiser des artistes dans tous les domaines, en musique, en art pictural, en art plastique, en art vivant, en création de mode si nécessaire, et de les faire se produire.
D'accord.
On est des entrepreneurs du spectacle.
D'accord.
Et plus loin.
Très bien. Et alors pour steampunk.fr, est-ce que vous pouvez préciser vos rôles et votre engagement là-dedans?
D'accord. Steampunk.fr, c'est un forum national qui est en fait là pour être une vitrine sur le steampunk, où tout le monde vient pour discuter, débattre, échanger, et proposer s'il fait des créations, ce genre de choses. Après, nous, on est là en tant que membre, mais aussi en tant que steamer, tout simplement, vaporiste, en français, gens qui aiment ce mouvement. Et nous, on le vit de certaines façons, donc par le costume, on côtoie d'autres gens, où on se fait des rencontres culturelles avec des sorties, des événements, des soirées, juste histoire de se retrouver entre nous et de partager une passion.
Alors, j'ai juste un petit truc là-dessus. C'est qu'il est national, mais il est même francophone, en fait, puisque on a une très grosse communauté de steamers, vaporistes belges et suisses. Et ça nous permet, en fait, nous, de nous retrouver, parce qu'en fait, le steampunk est une idéologie, mais elle n'est pas normée, encadrée, pas de limite, on peut faire des choses artistiques, des choses qui sont moins, on peut faire de la production, on peut de costumes, enfin on peut faire beaucoup de choses. Et en fait, c'est plutôt cet aspect-là, l'esprit du forum, d'où on est issu, c'est de brasser très largement tout ce qui a trait à cette esthétique.
D'accord.
Voilà.
Alors, juste pour faire un point, puis après on va vraiment parler steampunk, vous êtes à peu près combien, vous, dans le forum?
À peu près tout,
en inscrit, il y en a
plus de 3000.
3000, mais en actif, on va dire une grosse cinquantaine.
Se déplacent.
Ils se déplacent pas tous. Il y en a qui restent chez eux à partager par le forum.
Ouais.
Et il y en a d'autres, chacun le vit un peu à sa façon.
D'accord.
Le steampunk. Et c'est justement ce que permet ce forum, c'est que de chez soi, on le partage, mais aussi on a les rencontres. C'est deux choses un peu distinctes. Du coup, il y en a qui restent que chez eux parce qu'ils aiment juste écrire, par exemple. Mmh. Ils écrivent des nouvelles, des choses comme ça. Ils le partagent. Et il y en a d'autres qui aiment se costumer, se rencontrer. C'est deux choses différentes. Et on a un peu, comment dire, classé ce genre de choses pour.
Parce que en tout cas, la fonction première du forum aussi, c'est d'être une immense base de données sur tout ce qui touche à cette esthétique. Donc, que ce soit la littérature, que ce soit le cinéma, que ce soit même la musique, que ce soit des performeurs, que ce soit même des créateurs de travail du cuir. Voilà.
D'accord.
Donc c'est surtout aussi de pouvoir mettre en relation tout ce microcosme-là, sans forcément être aussi membre du forum.
D'accord. Et juste pour m'acheter, c'est pas du tout pour comparer, mais vous êtes à peu près combien de membres? Comment ça se passe, s'organise?
L'association Machine à Vapora, c'est un cadre légal.
Ouais.
Rien d'autre. Ça veut dire qu'en fait, on est deux têtes pensantes,
ouais,
et une huitaine de gens qui ont leurs compétences à côté.
Bon, ouais, qui viennent
se... L'association est créée pour programmer l'événement. Ensuite, ça ne change rien à la quantité de public.
D'accord.
L'association, c'est pour le faire très simple, c'est une créature bicéphale. C'est deux personnes et quelques autres membres qui gravitent pour donner des coups de main.
Bon, alors vous avez vu, hein, déjà dans ce qu'ils ont dit, on a commencé à parler de musique, on a parlé d'idéologie tout à l'heure, on a parlé d'esthétique. Donc on va commencer par la base, hein. Étienne n'est pas là, mais dites-moi un petit peu pour vous, qu'est-ce que le steampunk, très exactement.
On attribue à Einstein une phrase qui disait que si on ne peut pas expliquer très simplement quelque chose de même très compliqué, on ne l'a pas compris.
Ouais.
À ce compte-là, je n'ai pas compris le steampunk. C'est clair. En deux mots, et là je ne fais que finalement redire ce que Étienne Barillet écrit, c'est à la base un mouvement littéraire créé par trois auteurs, à partir de 82-83 à peu près, donc qui sont Tim Power, James Blaylock pardon, et Jeter, qui se sont donné un défi de créer des nouvelles de fantasy, de science-fiction un peu différentes, qui ont choisi comme thème de mettre ça dans un cadre victorien, ce sont des Anglais, donc belle époque pour un Français. Troisième République. L'idée a fait à germer. En 87, si je ne dis pas de bêtises, le mot steampunk apparaît, et c'est très important, comme une blague, en se calquant sur l'idée de cyberpunk qui avait déjà quelques années d'existence. Je précise que c'est important puisque finalement dans le steampunk, souvent, il n'y a ni steam ni punk.
Ouais.
La technologie à la vapeur est souvent très très mineure. Quant au côté punk, c'est-à-dire véritablement marginal, et antisocial qu'il y a dans le cyberpunk, il apparaît très très peu dans le steampunk. À partir de là, on est une deuxième génération d'auteurs, toujours dans la littérature, des gens comme Christopher Priest, par exemple. Et dans les années 90 et surtout début des années 2000, le steampunk se cristallise sur une esthétique plus large qui va toucher tout ce qui est art pictural, art plastique, cinéma, puis ensuite en dérivé logiquement mode de vie.
D'accord. Quand on dit esthétique, c'est une esthétique plutôt rétro, 19e. Comment elle se définit? Je vais vous poser la question aussi, hein, mais du coup, pour qu'on sente un petit peu les choses.
Si je disais uchronique, le spectre d'Étienne Barrien me mettrait une claque.
Ça.
Je
ne
vais pas utiliser le mot uchronique. Rétro-futuriste, je pense qu'il froncerait le sourcil aussi.
Ouais,
c'est du victorien fantaisiste. On prend une période chronologique. La Troisième République en France, le règne de Victoria en Angleterre, donc jusqu'à 1901 dans le cas de l'Angleterre, et on y rajoute des éléments complètement incontrôlés, complètement syncrétiques. En fait, ça devient un ensemble sémiotique, plus qu'une esthétique. C'est un ensemble de codes utilisés un peu n'importe comment, finalement, un peu comme on le veut,
ouais,
avec évidemment des éléments qui vont, eux, se cristalliser, notamment on a toujours les grands thèmes, le rouage, la vapeur, la montre, enfin tout ce qui est l'idée de temps, que ce soit nanomètre ou montre à gousset, qui vont être surreprésentés dans une esthétique historique standard.
D'accord.
À partir de ça.
Vous, quand vous dites que vous êtes steamer, quand tu parles d'idéologie par exemple, d'esthétique, ça représente quoi pour vous le steampunk?
C'est très vaste, en fait, c'est surtout, enfin on peut utiliser aussi le mot mode de vie ou lifestyle ou... C'est vraiment une esthétique, mais c'est aussi pas que vestimentaire, il y a beaucoup de choses. Rien que pour évoquer la première, c'est toute l'idéologie do it yourself, c'est-à-dire le faire soi-même. Donc c'est mettre les mains dans le cambouis, c'est-à-dire faire ses propres objets. C'est au-delà de regarder une période historique et dire à partir du 19e, il y a un événement qui fait passer le monde dans un truc fantaisiste. C'est de dire aujourd'hui comment ça a évolué, parce que la musique, c'est pas une musique historique, c'est y a de l'électro, il y a même du hip-hop steampunk.
Ouais.
Donc c'est effectivement ça, il va y avoir quelques petits référentiels, notamment l'aspect temporalité. Il va y avoir aussi des codes couleurs, on est beaucoup dans des matières comme le cuir, des couleurs comme le laiton métallique, un peu ancienne, tout ce qui est un peu patiné, et du coup, c'est ça qui va créer le décalage en fait. Et à partir de là, c'est vrai que l'histoire, on s'en fiche un peu, mais elle va venir justifier quelque chose, mais pas tout le temps. Donc c'est plus des codes, peut-être des goggles pour un objet, qu'on va retrouver assez souvent. Et ça n'a rien d'historique, en fait, il n'y a aucune justification derrière. Voilà. Donc c'est vraiment une mode de vie. Plus.
Pareil. Ouais, moi je rajouterais juste que quand tu as demandé l'avis, en fait, le steampunk a cette richesse et aussi cette complexité, c'est que chaque personne va avoir sa version du steampunk. Comme je disais, chacun va le vivre de façon différente, mais on va aussi avoir sa propre version. Je pense qu'on ne pourra jamais trouver deux personnes qui ont exactement le même avis sur ce qu'est le steampunk.
Sauf sur schizophrène.
Ouais. Et encore, je ne suis pas sûr. Mais c'est justement ce qui fait aussi sa richesse, parce qu'on a des gens qui apportent de nouveaux éléments. On sort peut-être de quelques clichés des fois. Et c'est ce qui permet justement d'évoluer. Et comme chacun a sa vision, chacun le vit différemment. On a à la fin le steampunk, mais c'est juste un mot pour résumer tout ça, c'est pas possible. Quoi.
Parce que chacun va recréer son histoire en fait. Chacun va dire, ah bah tiens en fait, Napoléon Ier en 1798 sous les pyramides, il avait peut-être trouvé une technologie totalement bizarre qui fait qu'en fait la technologie steampunk est justifiée par ça. Là où d'autres personnes vont utiliser d'autres histoires. Mmh. Et chacun va transformer la réalité à partir d'un moment qui lui plaît pour en faire autre chose. Mais c'est très, souvent très intime, c'est pour ça que c'est très rare de les gens qui sont contre l'électricité dans le steampunk. D'autres qui disent « Ah mais si, ça y est », d'autres qui citent Lovecraft pour rajouter d'autres dimensions un peu plus mystiques et magiques à l'esthétique steampunk, mais il n'y a rien d'uniforme en fait. Il y a juste quelques référentiels qui sont des points assez flagrants, comme le lien à la temporalité, ce fameux décalage. Mmh. Et après, il n'y a aucune barrière. Et c'est ça qui fait justement en fait sa richesse, je pense.
Alors, je suis tout à fait d'accord dans la théorie. La pratique me montre le contraire. Je m'explique. Ça fait 2 ans que j'organise des événements qui se veulent toucher au steampunk. Et une des phrases que j'ai le plus souvent entendue, c'est « ça, c'est pas steampunk ».
C'est vrai.
Totalement.
Ça, c'est pas steam, ça, c'est pas histo.
Ouais.
Voilà, c'est fou. J'ai prévu sur des concerts de gens qui, à la base, sont plutôt dans le milieu médiéval, sur une soirée. Ça s'est pas fait pour une question de décalage de date, c'est un des artistes qui s'était désisté. Cet artiste est un ami très proche, il m'a fait un spectacle, pour moi, ouais. Steampunk. À partir du moment où ça a été su sur le net, j'ai eu un nombre incroyable de messages disant « Mais Lucas Arbogast, mais il fait pas du steampunk ?»
Ouais, chacun a sa définition.
Donc la théorie est vraie, mais la pratique en fait montre que comme tous les mouvements, ils se sont cristallisés, ils sont cloisonnés, ils se sont mis eux-mêmes des œillères en disant voilà le steampunk c'est ça. Il y a ce phénomène que j'avais déjà vu dans les musiques extrêmes, ce phénomène très jaloux où à partir du moment où on fait quelque chose qui se veut, alors j'utilise le mot dont j'ai horreur, underground, il faut absolument que il soit fait comme je voudrais le faire et que je voudrais qu'il soit fait plutôt qu'il se diffuse véritablement. Et il y a un effet de balance très pervers entre le fait que le steampunk effectivement est un mouvement qui ouvre des possibilités infinies ou presque, et le fait que, étant donné que ça reste un mouvement et justement un mode de vie, on a très vite tendance à cette cristallisation très néfaste.
Ouais. Je dirais pas que c'est à ce point-là. Parce que c'est vrai qu'on retrouve des gens qui vont dire des choses comme « c'est pas steampunk, ton costume ça va pas », tout ça. Mais c'est pas la majorité. C'est peut-être ceux qu'on va entendre le plus, c'est ceux qu'on va relever le plus. Toujours on relève le négatif. Mais vu notre communauté, à nous qui passe soit par le forum, soit par d'autres médias comme Facebook, des choses comme ça, quand on se fait des rencontres, on a vraiment un peu de tout. Et on est plus admiré par ce que fait l'autre et comment l'a interprété l'autre que comment on l'imaginerait.
Et il y a aussi des communautés qu'en fait, qui est très forte, qu'on évoque là. C'est qu'en fait, il va y avoir justement ce que tu dis toi, mais à l'échelle d'une communauté. C'est-à-dire que les gens qui vont rentrer dans la communauté, on dit qu'il n'y a pas besoin de se conformer à une idéologie qui est très libre, enfin c'est très libre le steampunk, mais quand on arrive dans la communauté, il y a aussi des codes, aussi un moment quand on rentre dedans pour savoir si ça s'estime ou pas. C'est vrai, c'est souvent, mais ça c'est dans une démarche d'accompagnement et c'est rarement mal pris. Par exemple, mon premier costume que j'avais fait, c'était on m'a dit ouais, c'est plus prohibition, c'est plus gangster, c'est plus machin, c'est pas ça steampunk, etc. Il y a des gens qui le prennent bien et généralement qui ensuite font d'autres costumes ou vont être accompagnés pour rapprocher d'une idéologie commune de communauté. Mais après, c'est vrai qu'il va y avoir plusieurs idéologies steampunk en elles-mêmes. Donc, par exemple, la communauté steampunk.fr se voit d'une telle manière, mais les gens qui ne sont pas forcément dans cette communauté, qui vont faire une perception à eux du steampunk, ça va peut-être se confronter. C'est toujours bon enfant, parce qu'on n'en vient jamais aux mains, et il n'y a pas de rejet, mais c'est vrai qu'à un moment ou à un autre, on a besoin, parce que c'est identitaire en fait.
Ouais.
Il y C'est un réflexe identitaire, le steampunk, parfois, et souvent même. Et donc, du coup, les gens vont dire « Ah, mais c'est comme ça, c'est parce que je l'ai défini comme ça. »
En fait, ce qui est important dans ce que vous dites, c'est y a plein de choses, mais il y a quand même des termes forts. Il y a les termes mode de vie et idéologie qui reviennent. Alors, on ne parle pas du tout d'extrémisme en termes d'idéologie, hein, mais une idéologie, ça sous-tend des lignes, tout du moins, qui permettent de suivre ou pas suivre. Et quand vous parlez mode de vie, quand on dit que c'est un mode de vie, c'est pas simplement le week-end, quoi. C'est aussi dans sa vie de tous les jours. Qu'est-ce que ça sous-entend? Et en fait, je pose la question, je suis un peu pervers là-dessus, parce que il se trouve qu'Étienne, je connais bien Étienne, on a fait plusieurs débats, et lui parlait de du steampunk comme aussi une réaction à la technologie et à la vitesse de la société. Donc voilà, je voudrais qu'on reste sur, vous me définissiez un peu ce que vous entendez par idéologie et ensuite par mode de vie, quoi. Qu'est-ce que dans votre mode de vie, vous, tous les jours, ça change par rapport à cette idée-là?
C'était quelle idéologie?
Ma question est longue. Ouais,
alors, il y a deux parties. La première, c'est qu'est-ce que ça sous-entend au niveau de la réaction des populations vis-à-vis de la technologie. Pour moi, le steampunk, j'aime bien le voir comme, et si des gens du 19e siècle s'imaginaient le futur, leur futur, et si c'était arrivé. C'est-à-dire que monsieur tout le monde au 19e siècle se dit, on va tellement être évolué dans des millions d'années qu'on aura des trucs qui nous permettront de faire ça. Et généralement, ça se produit. Donc, c'est comment les gens du passé voyaient le futur. Voilà.
Là, on s'approche.
La définition même du rétrofuturisme.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est rétrofuturisme. Après, là où ça devient steampunk ou dieselpunk ou tribalpunk ou shishapunk, enfin, il y a plein de... Ça, c'est moi qui l'ai inventé. J'ai fait
copyright.
Merci. Donc, là où ça va... Là où le mot avant-punk va changer... Enfin, c'est justement dans les codes qu'on va transformer. Et là, ça va faire plein de petits sous-cultures, sous-petites cultures. Donc, il y a ça. C'est les gens se disent, mais comment on va voir la technologie? C'est ça, cette réaction, qui est très saine, en fait, parce qu'elle va permettre de savoir ce que la civilisation s'imagine pouvoir réaliser. Aujourd'hui, nous, on s'imagine, si on imaginait le contemporain punk, on se dit, ouais, mais bientôt, on va pouvoir se dépasser à la vitesse de la lumière. Ça, c'est notre manière de voir le futur, parce qu'aujourd'hui, on a tellement atteint un niveau de technologie élevé que pour fantasmer la technologie future, on va imaginer des trucs fous. Mais eux, au 19e siècle, ils n'avaient pas cette base d'acquis technologique pour fantasmer sur plus qu'avoir des zeppelins qui traversent la Méditerranée ou autre chose, quoi. Donc, c'est ce fantasme du futur qui va arriver, mais avec ce référentiel-là. Et deuxième chose, je pense laisser les autres sur ce point-là.
J'agirais justement cette notion de steampunk, dieselpunk, biopunk, etc. qui, à mes yeux, est juste une façon... revient exactement à ce que je disais, c'est-à-dire ça, c'est un cloisonnement nécessaire. C'est comment, je parlais des musiques extrêmes tout à l'heure, cette volonté d'étiqueter. Or, si on regarde un peu l'histoire du steampunk, aucune œuvre originale, Étienne Barrier pourrait peut-être me contredire en sortant un contre-exemple, mais je profite qu'il ne soit pas là. Aucune œuvre originale, je pense notamment à celle de Tim Powers, qui sont pour moi la vraie éclosion du steampunk, n'utilise la technologie à vapeur. Dans ce compte-là, on peut considérer que le steampunk est un mouvement général qui n'a pas besoin d'être cloisonné. On s'en fout que ce soit du pétrole ou de la vapeur, puisque de toute façon, le mot steam dans steampunk ne fait pas sens. L'œuvre Les Voix d'Anubis, qui est considéré comme un des premiers romans steampunk, se passe en grande partie en 1810, en grande partie en 1987, et en petite partie en 1620 et des bricoles. À aucun moment, on parle de technologie à vapeur. Technologie à vapeur, c'est du nez-papin. C'est le XVIIe siècle. C'est la fin du XVIIe siècle. La période en 1620 n'utilise pas de technologie à vapeur. La période en 1810 n'en utilise pas, puisqu'on est passé à autre chose depuis longtemps. On est passé à tout début de l'électricité, la fin du mazout. Et la période 1987, j'en parle même pas. Donc pourquoi vouloir cloisonner sur d'autres éléments sémiotiques parlants alors que celui-là n'a pas de sens, n'a pas de prégnance?
Mais est-ce que c'est pas simplement parce que historiquement, ce qui vous intéresse c'est pas tant les voix d'Aduis, c'est le côté esthétique de la chose.
Et il y a aussi...
Exactement. En fait, je voudrais après qu'on dérive sur la musique et sur l'artistique, parce que c'est intéressant. L'année dernière à Nantes, il y avait une expo de Greg Brandmore, plus de rétrofuturisme, de steampunk, voilà. Mais voilà, c'est plus esthétique finalement qui compte. Mais qu'est-ce que sur le mode de vie? Alors, parlons du mode de vie, est-ce que ça veut dire que genre t'as chapeau là tous les jours?
Je veux juste rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, parce qu'on essayait un peu de définir le steampunk. comme il disait, on étiquette beaucoup aujourd'hui. Le problème, c'est que pour étiqueter, il faut qu'on soit d'accord sur la base. On le sera jamais, je pense, au niveau du steampunk. Y en a qui vont dire, comme Aymeric, que les bases, c'est ça. D'autres diront autre chose, ainsi de suite. Après, on a inventé plein de sous-genres, le cloudpunk, dont on parlait tout à l'heure. C'est autre chose. Mais en fait, moi, je vois ça, le steampunk, c'est pas « Oh, j'aime le steampunk, j'y vais et je vais faire comme ça parce que c'est comme ça que c'est passé. » Non, c'est les gens font chez eux quelque chose, ils se rendent compte que ça se rapproche de ce monde-là. Ils disent « Tiens, il y a un nom qui existe sur ce que je fais. » Et moi, c'est comme ça que j'y suis arrivé. Je sais que beaucoup, c'est le cas. C'est on découvre, enfin, on imagine des choses sans savoir, sans avoir mis un titre dessus. Et un jour, on découvre qu'il y a une communauté qui se fait appeler sous le nom steampunk et qui font un peu des choses qui se rapprochent et qu'on peut échanger avec eux. Donc c'est vraiment pas, voilà, on fait pas du steampunk, on fait quelque chose et on se rapproche d'autres gens. Et voilà, on s'est mis un nom pour ça. C'est une bannière.
Oui, parce qu'en plus, voilà. En tout cas, l'angle d'attaque de ça sur le steampunk, c'est une attaque étymologique. C'est-à-dire qu'on va prendre steam, vapeur, on va prendre punk et on va définir la chose à partir de ça. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus du tout ça. En fait, steampunk, il faut effacer la base étymologique. Et en fait, on pourrait même, si on voulait être plus proche de ce que c'est, dire esthétique rétro-futuriste. Ouais. Juste ça.
Mais il y en a qui seraient pas d'accord.
Et puis, steampunk.
Voilà, par exemple.
Et puis, steampunk, ça plaît bien aux gens aussi. Donc, ça leur permet de se raccrocher à quelque chose, de trouver plus facilement des portes d'entrée dans cet univers-là. Mais en fait, c'est un faux nom. Ça ne représente pas, par son étymologie, ce que c'est. Voilà. Et je pense que ça a besoin de rester pour pouvoir se raccrocher à cet aspect communautaire de la chose. Parce que pour aller quelque part, il faut que l'endroit existe et ait un nom. Et en tout cas, ça, c'est une communauté steampunk, même si personne ici n'a quelque chose qui marche avec de la vapeur. Ou même sur le stand, sur nos machines, il n'y a pas de vapeur, il n'y a rien.
En fait, tu t'apportes de l'eau à mon moulin, sans jeu de mots. Puisque justement, c'est parce que le signifiant est complètement déconnecté du signifié sur le mot steampunk qu'il n'est pas nécessaire, même si c'est complètement vain, de multiplier les cases dieselpunk, cloudpunk, biopunk, etc.
Ouais, faut juste dire esthétique, c'est futuriste.
Voilà. Ensuite, il faudra se mettre d'abord sur un terrain.
Il faudrait voter. Et puis,
en fait, l'important n'est pas de trouver un titre, l'important est de vivre.
Ouais, c'est ça. Alors, justement, je reviens sur ma question
la mode de vie.
Parce que je suis un garçon persévérant. qu'est-ce qu'au quotidien, faire partie de cette communauté, puisque c'est vous qui l'avez employé, mode de vie, qu'est-ce que ça change?
Ben, chacun, comme je disais, va le vivre différemment. Ouais. Par exemple, pour ma part, moi, je travaille dans l'horlogerie. Ouais. Donc voilà, l'horlogerie, on est un peu dedans quand même. Après, non, je porte pas mon chapeau tous les jours, forcément. Mais y en a d'autres qui vont porter leur costume. Ce sera leurs habits normaux. C'est-à-dire que bon, ils n'auront pas genre les flingues, tout ça, parce que bon, dans la rue, ça ne le fait pas. Mais ils auront quand même des vestes, des costumes travaillés différents. Donc c'est pareil, c'est chacun va le vivre à sa façon. Donc ce mode de vie n'a pas de, encore une fois, pas de règles bien strictes. Chacun le vit comme il veut. Il y en a qui vont pas le vivre tous les jours. Qui vont juste le vivre dans leur tête avec leur imaginaire et qui tous les jours seront en jogging. J'espère pas trop, mais bon. Voilà.
En tout cas, on voit quand même qu'il y a une certaine influence dans la vie. Enfin, ça rentre comme ça à dans une certaine intensité, comme tu dis. Mais aussi, enfin, on voit souvent des gens qui envoient sur la communauté des photos de leur intérieur parce qu'on voit. En tout cas, moi, chez moi, j'ai un grand bureau et bois bien foncé ancien et il y a une lampe à huile qui est transformée en lampe de chevet, il y a un vieux papyrus quelque part, même dans les habits de tous les jours, ça impacte, ouais. Ça prend pas le dessus en fait, il y a une sorte d'équilibrage et c'est vrai que quand on est entre gens qui sont plus ou moins déséquilibrés comme nous, on met plus de costumes voilà. En fait, si t'es déséquilibré aussi donc ça, la part costume et autres, enfin c'est une jauge et chez pas mal de gens on retrouve quand même un petit côté, il y a des gens qui ont des montres avec les mécanismes apparents, ça impacte la vie, mais en fait l'intensité de l'impact va dépendre de la situation et au plus il va y en avoir, c'est exponentiel, et au plus les gens vont se costumer, mais en tout cas oui, ça a un impact sur l'intérieur de vie, le mobilier. Sur la façon de s'habiller, mettre des gilets ou pas, ou
chemise, enfin, deux t-shirts.
Ouais, voilà, c'est ça. Et
je continue à creuser. Donc en termes de mode de vie, quand on est hippie, quand on est végétarien par exemple, voilà.
Je
nous regarde. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des rapports au monde.
Ah. Voilà.
quand même, parler, que ce soit par exemple la non-violence ou par exemple sur le rapport animal, etc. Est-ce que vous, on a bien compris l'impact esthétique, mais comme disait Étienne, pour lui, les gens qui font du steampunk, il y a aussi peut-être un rapport à la technologie. Est-ce que sur ce rapport au monde-là, il y a des choses qui ressortent? Peut-être que, est-ce que, par exemple, toujours ce rapport à la technologie, est-ce que vous sentez un peu dépassé par les ordinateurs ou pas, ou j'enfonce des portes ouvertes, mais dites-nous, est-ce que derrière l'esthétique, est-ce qu'il y a un rapport au monde qui est un petit peu différent?
Moi, personnellement, je ne le perçois pas, au sens où ce que je connais des gens qui apprécient le steampunk ou qui le vivent, si l'esthétique est réactionnaire, la mentalité ne l'est pas. On n'est pas dans, même si pourtant le réactionnarisme est à la mode, en politique notamment, même intellectuellement, aujourd'hui on a probablement un rapport à l'avancée, au progrès qui est en train de se casser la gueule de façon très nette, d'où les intellectuels actuels qui sont tous des néo-réactionnaires. Enfin, je pense à des gens comme Soral, je ne vais pas forcément les citer pour ne pas faire mettre d'ennemis. Je n'ai pas perçu dans les vaporistes ou même dans les gens qui sont intéressés par le mouvement de volonté ou d'idéologie réactionnaire.
Réactionnaire sans
jugement de valeur dans le monde réactionnaire.
Ça peut être simplement l'éloge de la lenteur, par exemple, tu vois.
De la lenteur. Ça peut être une bonne définition.
Ensuite, la deuxième question que je m'étais posée, j'en avais discuté avec Raphaël Colson. Ouais. J'avais remarqué que, moi le premier, en art steampunk, et je pense à une installation qu'on avait faite chez Thierry Herrmann à la Demeure du Chaos, on est très vite sur des thématiques totalitaristes. Notre installation était une installation qui était purement 1914-1918 avec des affiches de propagande. On y entrait par des chevaux de frise barbelés. Le code esthétique était parfaitement net. On était dans la déchéance du début du XXe siècle et l'arrivée des totalitarismes. Et je lui ai posé la question, est-ce que selon lui, il y avait ou il pouvait avoir un rapport entre esthétique steampunk et tentation des esthétiques totalitaristes? Le symbole d'un des monde qu'on a créé en termes littéraires qui est en cours avec l'association Machina Vapora, c'est une aigle impériale entourée d'un rouage. L'aigle impériale, aujourd'hui, le symbole est clair. L'aigle impériale, on pense immédiatement au Reich. Même si en fait, l'aigle qu'on a utilisé n'est pas du tout celle du Reich. Et selon lui, non. Malgré tout, je me pose la question. Est-ce qu'il n'y a pas un substrat, si ce n'est politique, au moins une volonté esthétique de retourner à des esthétiques fortes, totalitaristes, puisque...
Non, c'est aussi des cadres... aussi des cadres d'univers, comme tu dis, c'est aussi des cadres de période. Je veux dire, l'ère victorienne, c'est quand même pas la plus fun qui soit.
Oui, la charnière.
Et puis le Troisième Empire, c'est quand même une période. c'est la période des empires, justement, hein, pour le coup.
C'est une question en chantier. Il faudrait que je revoie Raphaël pour lui reposer la question. À quel moment cette charnière se fait-elle?
Mais c'est vrai que si on regarde l'expo qui avait lieu, justement, à Nantes et à Maison d'ailleurs, de Greg Brodnord, c'est un univers en guerre, quoi. L'esthétique, il est aussi sur les armes, il est aussi sur les monstres, et plutôt les monstres à découper que les gentils végétariens.
Ça me donne le fait. Ça me donne le fait.
Ils sont pas gentils, les végétariens.
Récemment, quand même un artiste qui est vraiment dans la vague steampunk, récemment a fait une série totalitariste.
Qu'est-ce que je voulais dire?
Je voulais juste rajouter un truc là-dessus. Il y a à peu près un an et demi, il y a une question qui a été posée sur le forum, dans la partie débat. C'est une question sur laquelle il y a encore des postes aujourd'hui. Le steampunk est-il politique?
Doit-il
être politique? Je pense qu'il y a au moins deux bagarres par jour à cause de ça. Non, parce qu'en fait, c'est une question qu'on s'est posée. Il y a des gens qui ont balancé ça. Ils ont dit, on va balancer ça. Et ça a provoqué de la passion. Les gens se sont dit, en tout cas ma position là-dessus, c'est non, 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 non et non, parce que toutes les idéologies qui ont mené à une forme politique, c'est-à-dire une gestion d'État, c'est n'importe quoi, puisque déjà ça se casse la gueule, c'est éphémère, et de plus le steampunk n'a aucun outil de gestion d'État et de communauté autre que dans leur manière de s'habiller. Alors si on devait s'arrêter à la manière de s'habiller ou de meubler son intérieur pour faire une idéologie politique, je pense que c'est pas assez fourni. Ça ne peut que gérer quelque chose qui est du loisir ou il peut y avoir du travail steampunk, mais travail de cet art-là. Mais en tout cas, ça ne doit pas, enfin, je ne pense pas que ça, c'est mon avis, hein, mais ça ne doit pas être politique, puisque ça n'en a, ça n'a aucun outil politique, aucun outil de gestion, aucun outil de délégation de pouvoir, aucun outil de coercition, aucun outil de dire voilà, vous devez faire des choses d'intérêt général, puisque là on parle de politique, vraiment on ne parle pas d'un hobby de quelques personnes qui vont se costumer de temps en temps, on parle de quelque chose d'assez fort. Donc il ne faut pas mélanger tout. Le steampunk, la question doit-il être politique, c'est une question qui peut-être est intéressante, mais c'est complètement décorrélé de ce que doit être la politique. C'est pas, le steampunk n'a aucune... Enfin, déjà, je ne pense pas qu'il y ait une ambition, sinon c'est quelques zélés dans un coin qui se prennent pour des savants fous. Sinon, le steampunk ne peut pas et ne doit pas l'être. Ça ne doit être que comme une sorte d'idéologie personnelle qui va permettre de mettre en exergue des choses qu'on aime, et des choses du loisir et de l'affect. Et dès qu'on tombe dans l'affect, dans la gestion d'un État, on va tous vouloir prendre le pouvoir, on va tous vouloir imposer quelque chose. Et ça, on a beaucoup d'exemples, et on ne mettait pas le mot steampunk, on mettait d'autres mots. Et le passé nous a montré que des idéologies avec beaucoup d'affect qui essaient de diriger le monde, enfin diriger le pays.
Là, tu parles du politique, mais du coup, je reviens à ma question du rapport au monde, hein, parce que évidemment, le politique, c'est aussi un rapport au monde. Qu'est-ce que dans ce rapport au monde, ça sous-tend d'être steampunk ? Cite Étienne par rapport à la technologie, mais est-ce que c'est l'éloge quelque part de la lenteur ? Est-ce que, dans pour vous, hein, je veux dire, voilà, ça peut être que du costume, mais c'est une question tout le monde qui se pose.
Je dirais que ce ne serait pas une éloge de la lenteur, ça serait plutôt et si on faisait autrement ?
Ouais.
Aujourd'hui, on en est à avoir une vie comme ça, quotidienne, avec beaucoup d'ordinateurs, comme tu disais. Mais si on voyait la vie avec plus de mécanique, parce que peut-être qu'on a plus confiance pour certains, il y en a d'autres au contraire qui vont aimer. Mais c'est pas, il n'y a pas des choix aussi tranchés. C'est pas des choses comme ça. On a des informaticiens steampunk.
Ouais.
Et donc c'est vraiment, voilà, il n'y a pas de hiérarchie. Et c'est pareil, on n'a pas de, on peut pas dire est-ce que, par exemple, comme on a beaucoup de gens qui disent être royalistes dans leur personnage qu'ils inventent dans steampunk. On va aussi avoir en face des chasseurs indépendants complètement anarchistes. Donc on ne peut pas cibler sur des choses comme ça. Donc même dans la vie, ça va se refléter de la façon dont eux, ils les voient. Donc encore une fois, on aura des différences.
D'accord. Parlons un petit peu des dérivés. Tu parlais de musique. Alors globalement, de la musique steampunk. Parce que là, en termes d'image, on voit bien.
C'est de la musique avec des rouages et des gogoles.
Lorsque j'ai programmé un jour un groupe considéré généralement plutôt comme gothique, quelqu'un de vindicatif m'a fait la remarque, c'est pas en mettant un chapeau de forme sur n'importe quel musicien qu'on fait un groupe steampunk. J'ai réfléchi une minute et je lui ai répondu, mon petit monsieur, si. Effectivement, en musique steampunk, il y a de tout.
Ouais.
Ça va de l'indus, métal, dans les musiques extrêmes, jusqu'à la chanson française. En passant par des choses orientées de jazz, du rock progressif, ou même tourné vers la pop, des choses très groovy, issues du rap. On a voir tout ça mélangé. Hein. Dr. Steele est un excellent exemple d'artiste complet qui fait de la musique. Il a clairement une formation d'opéra ou un don exceptionnel en termes de chant. Et il passe de chant lyrique en plein milieu d'un morceau à des trucs vachement boum dans ta face. Si je peux me permettre l'expression. Donc à partir de là, se pose la question, qu'est-ce qui peut définir le style, un hypothétique méta-style musical qui serait steampunk ? Personnellement, j'ai deux réponses. C'est une part, un jeu de scène. C'est-à-dire une esthétique, on y revient. De la même façon que le mouvement punk peut faire de la musique totalement souple, éventuellement, mais avoir une attitude punk, ça marche. Pour moi, ça marche très bien aussi dans le steampunk. Il suffit d'avoir un jeu de scène, un décorum, pourquoi pas un discours steampunk dans l'inspiration. Ça suffira à faire de la musique steampunk, quel que soit le type musical. Dans une deuxième couche, il y a aussi quand même certains codes d'utilisation instrumentale. Tout ce qui va être hors de barbarie, si musical, piano mécanique, tout ce qui va fleurer ce côté 1900, même si c'est totalement artificiel, même si c'est de la musique de synthèse, qu'on va pouvoir éventuellement ensuite rajouter sur n'importe quoi d'autre. Je pense à une introduction de morceaux de Vernian Process, qui est franchement métal, mais qui commence par de l'orgue de barbarie. Et ça marche très bien. Et on comprend immédiatement dans la première seconde de l'introduction qu'on parlera de quelque chose qui a un code steampunk.
D'accord. Excusez-moi, c'est qui les grands groupes, les grands noms de la musique steampunk?
Abney Park.
Voilà,
Abney Park.
Alors, attendez, c'est quoi?
Abney Park, en premier, donc des Californiens, je crois.
Ouais.
En tout cas, les plus médiatisés. Vernian Process, qui doivent être des Anglais, de mémoire.
Dr. Steele, évidemment, qui a arrêté la musique l'an dernier, je crois, mais qui était américain aussi. Le Clockwork Quartet pour les Anglais.
Project aussi.
Ouais.
C'est,
ils
font du steam aussi.
Ouais.
Ghostfire.
French and the Punk aussi.
French and the Punk qui ont des accents très steampunk.
Même, ils ont même une très belle guitare steampunk aussi.
Ouais. Victor Sierra pour les Français.
On peut même pousser jusqu'à Caravan Palace.
Ouais, Caravan Palace.
Là, on est à moitié. Là, on est à pied dedans.
C'est jusqu'à Barré.
Mais c'est mon propos, c'est que n'importe quel style. Enfin, on ne peut pas s'arrêter. Mathieu Bellemare a quelque chose de très steampunk dans son. Et pourtant, on est dans de la chanson française à texte. Enfin, chanson canadienne. Dionysos a des références steampunk. Tout à fait. Michael Ribiat, ancien guitariste, un des deux frères de. C'est un groupe de punk à la base, qui maintenant fait de l'instrumental symphonique, très orienté steampunk.
Alors comment toi, dans l'association, tu gères des artistes, tu joues les artistes steampunk?
Oui.
Comment
j'ai fait
ça? Ouais, comment tu fais? Sur ces mêmes critères, sur...
Je pense qu'on réagit, dans l'association, on réagit surtout aux critères affectifs. Ouais. Ça nous plaît, ça nous plaît pas. On a tous les deux une formation d'art. Moi théorique et le président qui est présent dans la salle de façon beaucoup plus pratique. Donc déjà on marche à l'effectif, ça nous plaît, c'est le premier critère. Deuxième critère étant ce qui est raisonnablement faisable. Je rêverais de pouvoir faire venir Ghostfire de Londres cette année, j'ai pas les moyens. Ouais. Exemple, je parle même pas de French and the Punk pour les faire venir de New York.
Ils sont venus à Toulouse cette année.
Ah oui, je sais. Je suis au courant. Merci de retourner le coup dans la plaie. qui plus est.
Et là.
Et ensuite, il y a un élément beaucoup plus simple, c'est que beaucoup de gens nous contactent. Parce que dans cette communauté, si communauté il y a vraiment une volonté de faire des choses.
Ouais.
Victor Sierra, qu'on a fait passer déjà en France, à Lyon, pardon, parce qu'ils sont de Paris, n'était pas prévu sur notre programmation de 2011. Ils nous ont appelé, je lui ai expliqué qu'on avait déjà trois groupes pour l'événement, que ça faisait beaucoup. La réponse du guitariste a été nous, si on joue à 2h du matin, on s'en fout, on a juste envie de jouer.
Ouais.
Dans ces cas-là, oui. Combien pour les billets de train?
Ouais, c'est pareil pour French and the Punk, qui était là à Toulouse. Il n'y a qu'à voir. Aux États-Unis, lorsqu'ils font un événement sur Facebook, par exemple, il y a déjà 5000 personnes qui, dans les premières heures, et ça décolle, ça explose. Ils jouent devant des salles en deuxième partie d'Abney Park, devant des milliers de gens. Ils sont venus à Toulouse, ils ont joué. Il y avait un Steam Tour, c'est-à-dire il y avait un événement national. Steampunk, ils sont venus à Toulouse, ils ont joué devant 20 mecs en costume. Et ils étaient à fond. Parce que il y a aussi, je pense qu'il y a aussi un côté très communautaire, on est ensemble, on fait les choses ensemble. Et ils s'en fichent, eux ils jouent, ils ont du plaisir de jeu, ils ont du plaisir de scène, et ils partagent avec nous. Et
on était là pour partager. C'est en fait un événement qui a été fait par des membres du forum, qui ont appelé un Steam Tour, c'est-à-dire une réunion dans trois villes de France, avec un programme. Et Toulouse, ils ont eu French and the Peck qui sont venus dans un tout petit bar, comme on disait, pour 20 personnes à nous et des gens qui étaient là par hasard. Mais ils sont venus parce qu'ils aiment ça, ils voulaient le partager. Ils aiment bien la France parce qu'il y a la chanteuse, je crois, qui est française.
Ça me mérite d'origine de Lyon, je crois.
Ouais. Aussi de Lyon, hein, qui disait voilà, qu'elle était heureuse de voir qu'il y ait du steampunk en France qui se faisait, qu'il y avait des événements qui se passaient. Et du coup, ils sont venus juste pour ça, pour partager, pour vivre le steampunk avec nous.
Là, on parle du phénomène français, mais vous l'avez évoqué. Il y a d'autres pays, enfin tout le moins francophone avec la Belgique, il y a d'autres pays où le steampunk marche aussi fort. C'est un phénomène un peu mondial. Ouais. C'est un phénomène occidental. Est-ce qu'en Asie aussi?
Selon Étienne, il est surtout du vieux continent.
Ouais, européen. Ouais.
Parfois, j'ai l'impression du contraire, mais Étienne est un meilleur analyste que moi là-dessus. Donc pour lui, c'est avant tout européen.
Ouais.
Anglais-France, notamment. Ensuite, comme Raphaël Colson le rappelle souvent parce que c'est un peu son dada, ça marche différemment mais de façon très efficace aussi au Japon.
D'accord.
Il y a un steampunk japonais qui est particulier, qui a ses propres codes, mais qui est indéniablement du steampunk. Et là-dessus, je ne pourrais pas en parler mieux que Raphaël Colson, donc j'ai envie d'appeler tout le monde à aller lire leur ouvrage collectif, puisque tous les apartés sur le Japon sont faits par Raphaël Colson.
Tu veux dire ?
Non, c'est plutôt vieux continent et États-Unis, ça a vraiment explosé, mais surtout il y a un côté dans le steampunk très fort dans tout ce qui est anglo-saxon, tout ce qui est voilà. Et après, c'est vrai que ça déteint pas sur d'autres continents par le Japon, mais c'est encore différent du steampunk on va dire occidental. Mais ça se développe pas ailleurs. Ouais.
De fait, les codes du steampunk sont généralement anglais, anglo-saxons. Ouais. Je sais que beaucoup de gens qui assistent à des soirées steampunk en France parlent d'univers victorien. Enfin, j'ai envie de répondre, mais je vous répète que la France n'a jamais fait partie de l'Empire de Victoria. Même si le soleil ne s'y couchait pas, la France n'en faisait pas partie. Ouais. C'est Troisième République, Second Empire. Appelez ça comme vous voulez, belle époque, année folle même, si vous voulez, mais pas victorien. Il y a vraiment une notion très anglaise, même en France, associée au steampunk.
C'est quoi une soirée steampunk ?
Il y en a une à Octogone.
C'est quoi ? C'est juste des gens d'une même communauté qui se retrouvent déguisés et qui papotent autour d'un verre.
Alors déjà, je vais reprendre vite fait, voilà, sur le déguisement.
Pardon,
costumé. Petite différence, un grand débat, et on est assez fiers d'essayer de remettre ça en cause, puisque costumé, justement, c'est pour parler de notre partie où nous, on aime créer un costume, c'est-à-dire qu'on crée un personnage qui va dedans, on crée tout. Alors qu'un déguisement, on prend quelque chose qui est déjà existant.
Ou on imite.
Ou on imite, tout simplement. Et c'est pour ça, donc le costume, ça vient de là, et c'est comme ça qu'on le vit, puisque on part de rien et on crée tout. Bon, bien sûr, on a des influences, forcément.
C'est pour ça aussi que je disais que le steampunk est identitaire, puisqu'il se construit seul. Et généralement, quand on cherche dans notre tête, on fait des choses qui nous ressemblent, nous, très personnellement. Donc c'est pour ça qu'aussi, il y a une petite réaction quand on dit déguisé, c'est souvent parce que les gens s'estiment costumés. Après, peu importe la qualité du costume, son niveau, voilà. Ça, c'est l'appréciation de la personne qui regarde. En tout cas, la personne qui fait son costume va se fantasmer dans un monde autre et se l'approprier. Et donc, c'est pour ça qu'il y a aussi souvent, des effusions de ça à cause de ça.
Du coup, alors, dans une soirée...
Pour répondre à la question, je vais parler de la façon dont nous, on le fait, tout simplement. C'est très simple, c'est comme n'importe quelle autre soirée à thème. Comme l'ont été les soirées goth à une époque, comme n'importe laquelle. Au sens où le public va se reconnaître dans un dress code, une esthétique, qui est une condition, si ce n'est sine qua non, au moins un vif appel du pied à dire venez comme ça, pas autrement, puisque c'est le thème de la soirée, logiquement. Et une adéquation des performances, si performance il y a, ce qui pour moi est une condition sine qua non à une bonne soirée, sur ce thème. Donc les concerts sont de la musique avec des guillemets steampunk, on va pas revenir sur la question, les performances ont un thème rattaché au steampunk, etc. etc., etc.
D'accord.
Mais finalement, une soirée steampunk, c'est une soirée à thème comme n'importe quelle autre. Mais le thème est défini comme ça et pas autrement.
On peut aussi voir des soirées steampunk, donc ça c'est pour ce qui est à thème officiel, mais comme on est une communauté, on est des gens qui s'apprécient, pas juste parce qu'on est du steampunk, mais parce qu'on s'apprécie. Donc une soirée où on va juste aller boire un verre, on va forcément parler du steampunk. Ça peut être une soirée steampunk, parce qu'on va en parler, on va débattre, peut-être se lancer sur des projets, et c'est généralement même dans ces cas-là que les projets commencent.
Parler de grandes batailles, d'événements historiques, voilà. De ce genre de choses-là. En fait, le steampunk, il y a plusieurs couches, il y a la couche costume uniquement, mais aussi cette couche mode de vie. Et c'est vrai que les bonnes soirées steampunk, c'est pas généralement les soirées où on marchait dans la rue costumé, c'est peut-être des soirées où on était juste entre nous, et avec trois quarts des costumes posés sur le côté. Donc il y a aussi ça en fait, c'est un prétexte pour que les gens se réunissent, le steampunk, comme il y en a beaucoup d'autres. L'exemple des soirées goth, on peut en faire partie aussi. Mais après, c'est justement ce qu'on y fait. Et il y a des performances, donc, là où on est spectateur d'une chose qui va se produire, qui a été mise en scène. Et puis, il y a aussi l'aspect, en tout cas, qui n'est pas dans un cadre légal associatif, mais qui est plutôt dans une idée, on fait tout ce qu'on veut, c'est où on est nous-mêmes acteurs de ce qui va se passer. Et on ne le fait pas pour les autres. C'est-à-dire, par exemple, dans le cadre de la Machina Vapora, elle va faire un événement, mais pour des autres gens. Donc, voilà. Alors que nous, on va faire un événement.
Par définition, un événement demande au public. Il est fait pour le public,
voilà.
Pas pour soi.
Après, le public est extérieur aux gens qui vont organiser, alors que nous, généralement, on fait des événements pour nous. Le spectateur, cet événement, c'est la personne qui participe et qui va construire la performance en elle-même. C'est-à-dire qu'on va être 50 personnes et on va s'habiller avec nos costumes, on va faire un pique-nique, on va aller dans un bar, on va écouter un... Après, on va partager avec des gens qui sont pas steam, enfin qui sont pas habillés comme nous. C'est pas parce qu'on est entre nous, regardez pas, parlez pas avec nous. Donc on va aussi partager un moment, mais c'est une certaine forme de représentation quelque part. Mais l'idée première, c'est l'autosatisfaction de participer à cet événement avec les copains.
Pour moi, ça, c'est comparer une représentation théâtrale à une troupe de théâtre qui va boire un coup. S'il n'y a pas de public, ce n'est pas de l'événement. Je suis désolé de le dire un peu brutalement, mais...
Et c'est justement pour montrer ces deux facettes.
En fait, ils font pas d'événement.
C'est pas un événement, c'est les deux facettes.
C'est bien pour ça que c'est sur le terme événement que j'insiste. Un apéro chez soi, même si on y fait des choses avec des intérêts communs,
C'est pas destiné à un public, ce n'est plus un événement.
Oui. Ouais, par exemple, le concert de French and the Punk,
c'est pas un événement.
C'était un événement en soi, puisqu'il y avait une organisation avec des organisateurs et tout. Mais la soirée en elle-même, comme elle se déroule, et le week-end, c'était tous ensemble. Ça veut dire que si quelqu'un voulait faire autre chose, on allait faire autre chose.
Oui, parce qu'après, il y a une partie, peut-être événement, légal, après billet d'entrée, chèque, etc. Nous, il y a un aspect, vraiment, construction d'un événement, où on se pose pas, enfin, si des questions budgétaires pour faire des petits macarons, des trucs, communiquer. Mais il y a cet aspect aussi où on n'a pas une prétention derrière d'animer des personnes extérieures. Après, c'est peut-être pas un événementiel professionnel au sens de création d'événements. Mais en tout cas, c'est ce qui, pour nous, a fait déjà pour l'instant bouger le maximum. Enfin, les plus grandes communautés Steam n'ont bougé que comme ça, n'ont pas bougé autrement.
Alors,
en France, en tout cas.
Juste une question, parce que le temps file. Dans chaque mouvement, il y a toujours des tendances, il y a toujours des choses. C'est quoi les évolutions en ce moment du steampunk? Et quels sont les grands mouvements de demain? Vous avez le temps d'y répondre.
Moi, j'aimerais parler juste d'une petite chose que j'estime comme... Enfin, quelque chose qui arrive beaucoup en ce moment.
Ouais.
C'est un peu aussi pourquoi je suis habillé comme ça, et peut-être pas avec Victorien, c'est le multiculturalisme dans le steampunk. À force de dire on fait du machin punk, truc punk, on s'est rendu compte qu'en fait on pouvait tout mettre dans l'appellation générique rétro-futuriste. Et en ce moment, il y a beaucoup de danse tribal fusion, beaucoup de performeurs, de shows, de danse arabe, et de tout cet imaginaire un peu exotique qui est en train d'affluer avec pas mal de performeurs. Je pense notamment, si nous entend, Alexander Aswad, qui est un excellent danseur de danse tribal, et beaucoup d'autres danseuses aussi qui sont en train d'immerger dans ce mouvement Steam, parce qu'il y a une certaine esthétique orientale et qui est un peu une sorte de fantasme de l'orientalisme d'avant, de Jeanne Delacroix, de toutes ces choses-là, avec un côté fusion, tribal, nouveau. Donc ça, il y a ça qui est cool en ce moment pour moi, je trouve.
C'est-à-dire que la tendance serait peut-être à la diversification. Il y avait eu déjà un premier mouvement qui était le Wild West, à savoir prendre les États-Unis à la période qui en Angleterre est victorienne. Donc ça a donné du Far West fantastique et du Far West rétro-futuriste. C'était un premier pas, qui est déjà vieux, hein, puisqu'on pense à des jeux de rôle comme Deadlands, par exemple, qui ont déjà un paquet d'années. Maintenant, effectivement, il y a peut-être ce mouvement qui s'élargit sur les autres champs du possible de la période. La Chine, à l'époque de la guerre des boxers, il y a de quoi faire. Effectivement, l'Inde colonisée par l'Empire anglais, pareil, l'Afrique, j'en parle pas, etc., etc. Et pourquoi pas le transsibérien, tout est faisable. Donc je pense qu'effectivement, les mouvements du steampunk aujourd'hui, c'est de syncrétiser encore plus de multiculturalisme à partir de, en gardant les codes donnés.
Alors, j'ai deux dernières questions qui fâchent, sinon ce serait pas drôle. Dans la mesure où c'est une esthétique qu'on voit de plus en plus et qui émerge de plus en plus en termes de grand public, hein, je pense à de la publicité, à des affiches, à des choses comme ça, est-ce que vous n'avez pas peur que le mouvement se dilue dans quelque chose de trop large? Et puis la deuxième question, c'est que puisque c'est un mouvement qui est relativement jeune, hein, on parle d'esthétique fin des années 90, début 2000, et que vous n'êtes tous pas très vieux, est-ce que c'est un mouvement qui peut durer sur plusieurs décennies, encore longtemps, ou est-ce qu'il y a un risque d'essoufflement?
Je ferai une citation que je vais faire de mémoire malheureusement de quelqu'un qui n'est pas suffisamment connu pour que je cite son nom, mais qui est un de mes proches. Un mouvement est sur son déclin à partir du moment où il est identifié. On a vu il y a environ 5-6 ans l'émergence du burlesque à Paris, puis à Lyon. Il s'est essoufflé dans l'année. Il existe encore, mais il s'est essoufflé. Il y a des éléments qui montraient qu'il s'essoufflait. Entre un début d'année et une fin d'année, j'ai pu assister à des soirées burlesques où les gens venaient d'abord fringués, puis ensuite en jean t-shirt. Le mouvement était mort, le public ne suivait plus. Le phénomène existait encore, mais le public ne le suivait plus. Le steampunk est identifié maintenant. Effectivement, il apparaît n'importe où. Donc je pense qu'il est en train de s'essouffler et qu'il est en train de... Il est à son champ du cygne.
Ouais,
j'en suis persuadé. En fait, je ne lui donne pas 5 ans à vivre.
Le steampunk n'est plus vécu, il est utilisé.
Ouais.
Il y en a qui l'utilisent parce qu'ils voient que ça marche et que c'est la mode et que c'est une façon.
David Guetta, on peut citer cette chanson pourrie qui a été faite avec des costumes pseudo-steampunk.
Parce que c'est la mode, parce qu'on veut accrocher.
Parce que c'est la mode.
Et si après on parle de s'essouffler, c'est peut-être pas non plus une mauvaise chose. C'est revenir à de vrais passionnés. Parce que ça, il y en aura toujours. Il y a des gens, ils vivent ça vraiment à fond. Et je pense pas que demain ils vont se dire bon, ben il n'y a plus le mouvement, je vais arrêter. Ça, c'est sûr. Du coup, on reviendra peut-être à a plus cette médiatisation, cette...
C'est plus sur son statut de mouvement voilà. Que faut se poser la question. Ouais,
ouais. On reviendra sur les vraies bases.
C'est la fameuse est-ce que c'est mainstream, est-ce que c'est encore snob et élitiste, est-ce que je suis encore hype quand je suis en steampunk ou pas. Personnellement, moi je m'en fous en fait. J'aime bien commencer. Avant de me dire steampunk ou de venir avec des gens qui sont en steampunk, j'aime bien mettre ce genre de truc là. Après, de voir plein de gens le faire dans la rue, si tout le monde sort comme ça pour aller au travail, je dirais. Ouais, ça a perdu de son charme puisque c'est plus assez uni. Mais après, peut-être que je vais plus moi aussi aimer, même si je suis un vrai mordu. Mais j'espère qu'on n'y arrivera pas. Aujourd'hui, je suis pas assez pointu pour dire ça va s'essouffler. Même si je vois vraiment des collections Prada avec des trucs plutôt victoriens et tout le monde qui dit oui, on va faire un manga steampunk et on va faire une soupe Liebig steampunk. Enfin, on va voir plein de trucs steampunk et trop. En fait, même toute la communauté dit il y a trop de choses steampunk, il y a trop de volonté mercantile qui pousse. On veut faire des événements steampunk, on veut faire ça, des trucs steampunk, et venez acheter steampunk, c'est bien steampunk, etc. Sauf que les gens qui le font au fond d'eux depuis un moment n'ont rarement rien acheté de cet akabila au supermarché en disant tiens, je vais acheter pour mon costume des chaussettes steampunk. Et donc eux continueront. Malheureusement, ceux qui sont entrés en se disant j'ai acheté une chemise avec plein de rouages dessus, c'est steampunk, et au bout d'un moment, on dit c'est plus steampunk, les gens n'aiment pas, ils vont le jeter. Oui, ça gonfle artificiellement avec ces gens-là et ça va s'essouffler artificiellement avec ces gens-là. Je pense.
On passe à cette espèce de jalousie de celui qui se veut underground et qui veut surtout pas que les autres le fassent. Le mouvement punk est mort il y a fort longtemps. Encore pas mal de gens sont punk, véritablement. Le mouvement goth est mort. Il y a encore des goths. Il faut quelques-uns. Il bouge encore un peu.
Ouais.
Le mouvement steampunk fera probablement la même chose. D'ailleurs, il sera moins visible, il existera peut-être, mais j'ai envie de dire aux gens qui se disent steamer, si c'est une vraie passion, et si le côté mercantile n'est considéré que comme une passade, et que finalement, soit c'est bon pour les autres, dans ce cas-là, il faut le voir sereinement. Si c'est une vraie passion, le mouvement s'essoufflera tout seul, et vous pourrez continuer à faire les choses de votre côté.
La majorité des steamers le voient comme ça.
Tout à fait.
Ouais.
Tout à fait.
Il nous reste 5 minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question à ces gens-là? Ou steamer?
Moi, je voulais juste savoir quel lien vous faites avec le mouvement gothique, parce que c'est vrai qu'on voit souvent, on a souvent, enfin moi, j'ai appartenu très longtemps au mouvement gothique, le mouvement steampunk, je connais beaucoup moins. J'ai l'impression, effectivement, comme disait Aymeric, que le mouvement goth, il y a encore des soirées goth, chacun fait dans son truc. Mais c'est vrai que les défilés, maintenant, c'est plus de mode, c'est plus steampunk. Il y a eu toute la période où le goth a été repris, ça a saoulé tout le monde, finalement. Ben, pour être original, j'ai l'impression qu'on s'est tourné vers le steampunk. Parce que, j'achète encore des magazines gothiques, et c'est vrai qu'on voit toujours beaucoup d'encarts steampunk. Alors, quels sont les
Légis a fait un grand encart sur le steampunk récemment.
Justement.
Et voilà.
Il y a
un lien immédiat, puisque ce soit le steamer ou le gothique, il y a un intérêt commun chez les deux, c'est le
côté esthétique.
Voilà, la volonté de complexité esthétique, de raffinement esthétique, d'importance sur l'accessoire. Donc il y a une passerelle qui est logique. C'est normal que beaucoup de goths soient attirés par le steampunk, c'est normal que beaucoup de steamers soient attirés par le mouvement gothique. Il y a une filiation. Je pense que c'est des mouvements indépendants par ailleurs.
Après, j'espère que le goth ne sera pas la prophétie du steampunk non plus, parce que je m'apprécie assez pour dire que je suis pas gothique, donc je ressens pas ces gens-là.
je suis une nom de valeur.
Après, oui, c'est des mouvements différents avec chacun leur code, comme on disait. Mais...
Oui, c'est différent dans le fond, dans la forme. Mais dans le fond, la mécanique, c'est une mode qui est en train de démerger, qui a émergé, qui va y arriver.
Les discussions qu'on avait avec le mouvement gothique sur les soirées gothiques, musicalement, c'était quand même super large et super open. Pareil sur la littérature, pareil sur l'habillement. Il y avait ceux qui faisaient des soirées très, 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 très gothiques. Il fallait montrer pas de blanche pour rentrer, et puis c'est vrai qu'il y a des thématiques communes.
Cela dit, je me fais une remarque, c'est que par essence, le mouvement steampunk sera plus cloisonné que le mouvement goth. Pour la bonne et simple raison que le steampunk a une date de création, des œuvres de création, une esthétique qui apparaît à un moment donné. C'est pas vrai chez les goths. Lorsque un goth se prétend se reconnaître dans du Lewis ou dans du Byron, je lui irais au nez. Certes, il en a lu, mais le mouvement goth ne sort pas de la littérature dite gothique anglaise.
Néanmoins, sur ce mouvement de littérature, est-ce que pour vous, les voix d'Alibis, la différence, les romans fondateurs, est-ce qu'ils sont importants? Est-ce que pour appartenir à la communauté Steam, il y a un moment, on dit au petit gars, essaye de lire ça d'abord. Enfin, est-ce que c'est le socle, ou est-ce que c'est vraiment ça sert pour expliquer,
puisqu'en fait les gens qui vont vouloir creuser ou mieux cerner la chose auront peut-être à lire ça, à voir ça, à entendre ça, pour essayer de comprendre et se rapprocher dans la compréhension de la chose. Après, dans l'expérience de la chose, on n'est pas obligé d'avoir lu telle et telle et telle œuvre citée, parce que ça reviendrait à dire que personne ne l'est, parce qu'on ne trouvera jamais une combinaison d'œuvres littéraires, musicales, autres, visuelles, à faire une sorte de liste. Et si t'as pas lu ça, c'est que t'es pas steamer, ça n'existe pas. C'est une base de réflexion et de compréhension, et non une base d'existence et d'interprétation ou d'appartenance. Voilà.
C'est vrai que les gens ont leur référence, leur comme tu dis Amérique, toi c'est ta base, mais ils vont les conseiller. Comme il disait, ils vont jamais dire tu n'es pas steamer si tu n'as pas lu ça. C'est des conseils, parce qu'il y en a qui n'aiment pas lire, par exemple. On en a qui sont juste des génies de bricolage, mais qui n'ont pas ouvert un bouquin de leur vie, à part peut-être au collège. Mais on peut les considérer comme ça, puisque ce sont des créateurs dans ce mouvement, puisqu'eux, ils sont complètement sur le côté esthétique.
C'est la différence entre la personne qui s'intéresse au steampunk, qui aime le steampunk, et celui qui se dit steamer. Ouais. Pour moi, s'intéresser au steampunk sans avoir au moins un minimum de bagage littéraire, esthétique, musical, d'œuvres steampunk, c'est faire de la forme sans avoir de fond. Être steamer, ensuite, c'est vrai que ça, il peut suffire d'avoir un modèle et de reproduire, mais pour moi, ça, c'est du bricolage. C'est pas s'intéresser au fond de la chose, c'est pas s'intéresser au fond du mouvement, si mouvement il y a. Pour moi, ne pas avoir lu au moins un ouvrage steampunk et se dire s'intéresser au steampunk, ça coince. Ne pas connaître au moins un groupe de musique steampunk, ça coince,
en fait,
etc.
Ce qui est rigolo, c'est que, alors, et puis on va s'arrêter parce que la fin du temps est partie, mais le steampunk, est, évidemment, alors, moi je viens du milieu de la science-fiction et de l'imaginaire. Donc le steampunk, on connaît depuis des années parce que les voiles à l'Ubis, parce que Confession d'un automate, mon genre d'opium, etc. Et d'un seul coup, il y a des tas de gens costumés qui arrivent, et on trouve ça chouette, et évidemment, il y a une affinité commune, quoi. Mais j'ai pas l'impression que ce soit sous-tendu par une production littéraire, mais elle est pas obligatoire. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de collection steampunk, il n'y a pas d'auteur qui ait fait carrière dans le steampunk, parce que même Tim Powers.
Il n'y a pas de magasin steampunk.
Et puis Mathieu Gabory et Fabrice Collin, ils en ont fait un, et puis c'est vaste, hein, ils ont fait autre chose derrière. Et donc, c'est un mouvement qui est intéressant parce qu'il est voisin d'une autre, mais il est sous-tendu plus par une production esthétique, artistique, mm-hmm. tu vois, dans l'alimentation quotidienne, entre guillemets, que littéraire.
Mais j'ai dit littéraire et esthétique et musical, etc. Ouais, etc. Ouais, le littéraire n'est qu'une pierre à l'édifice. Ouais. Mais effectivement, ne pas être allé voir un peu de Chris Cooksey, un peu de Sam Van Olfen, un peu de Casine de Machine, pour moi, c'est une lacune. Quand on dit s'intéresser au steampunk, quand on est steamer, c'est autre chose. Ouais. C'est pas du tout la même approche. Et je pense d'ailleurs c'est ça qui fait une grosse différence entre une communauté comme la vôtre et un projet artistique comme le mien, comme le nôtre.
Différence, c'est que c'est pas notre communauté.
C'est la communauté.
C'est une communauté.
C'est la communauté dont vous faites partie.
Dont on fait partie. Mais après, comme on disait tout à l'heure, pourtant, ce qui me choque, c'est que tu avais un peu le même discours que nous, c'est que c'est difficile de dire cette base, c'est ça le steampunk.
Ah, parce qu'à partir de là, la liste est
soit
exponentielle.
Cette œuvre, c'est steampunk, ça veut dire qu'on commence à mettre des bases.
Justement.
Et comme on peut
pas. C'est parce qu'on ne peut pas définir le steampunk qu'il faut avoir des bases communes. Sans vouloir pour autant le définir ni le cloisonner. Il n'a jamais été théorisé, le steampunk. Il n'y a pas de manifeste du steampunk. Ça n'existe pas.
De toute façon, ça ne devrait pas exister, parce que du coup, ouais. Moi, c'est là où on en a abouti. C'est de...
ouais, non, mais ça, par contre,
il y a un manifeste du
surréalisme. On va s'arrêter, puis on s'arrête.
Parce que là, c'est un peu énervé, tirer dessus, tu comprends.
C'est agaçant. Merci à nos intervenants. Merci à vous d'être restés. Et puis, n'hésitez pas à aller discuter avec eux.
Ou boire un verre.
Merci
à vous.
Merci.